Entretien littéraire, Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est l'heure de notre entretien littéraire. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui la romancière Amina Damerji pour son deuxième roman intitulé « Bientôt les vivants » qui paraît aux éditions Gallimard. Bonjour Amina Damerji.
Bonjour.
Amina Damerji, vous êtes née aux États-Unis, vous avez vécu les premières années de votre vie à Alger jusqu'au début de la décennie noire avant de vous installer en France. Amina Damerji, votre premier univers littéraire pour nous, lecteurs, c'était Cuba et la Révolution cubaine, lieu de votre premier roman intitulé « Laissez-moi vous rejoindre ». Et aujourd'hui, vous nous emmenez à Alger dans la période atroce des années 90. Qu'est-ce qui a fait que vous reveniez par l'écriture à cette terre justement qui ont vu votre enfance ?
Oui, je pense que c'était un roman que j'ai eu envie d'écrire tout de suite, enfin depuis très longtemps, mais que c'était difficile de s'y attaquer au tout début comme premier roman et qu'il m'a fallu d'abord écrire sur une terre lointaine, pas si éloignée par plein d'aspects de l'Algérie, mais pour ensuite revenir à ce monde de l'enfance qui me tenait à cœur, mais qui charrie aussi des choses plus douloureuse.
Extrêmement douloureuse même, puisque c'est la décennie de cette guerre civile. D'ailleurs, le roman s'ouvre en septembre 97, un flashback qui va nous ramener justement à la fin des années 80. Et il s'ouvre sur les ruelles de Sidi Youssef, un quartier de l'agglomération de Beni Massous, dans la wilaya d'Alger. Et le récit commence par un massacre, Amina Damerji.
Oui, il me semblait important d'entrer tout de suite dans la violence qu'a été cette décennie noire algérienne, qui donc à la fin de l'été 97, il y a eu trois massacres qui, pour la première fois, ont été des massacres importants, puisque ce sont des villages entiers qui sont passés à la lame, et dans les abords d'Alger, alors qu'auparavant, il y avait eu bien d'autres massacres ou des assassinats ciblés dans la ville, mais pas de massacres si proches d'Alger. Et donc, c'est vraiment le moment où les Algérois se rendent compte aussi qu'ils ne sont pas du tout protégés, les gens commencent à s'armer. Il y a une sorte de folie à la fin de cet été-là à Alger. Et puis, c'est aussi le moment où on a commencé à ne plus se sentir protégé. Et donc, ça a créé tout un tas d'autres rapports au pouvoir, d'autres rapports à la politique, d'autres rapports aux militaires, aux islamistes.
Mais est-ce que pour vous, c'est vraiment un événement qui ouvre l'écriture du livre ou au contraire, plutôt un personnage, le personnage de Selma, qui est celle qu'on va suivre tout au long de Bientôt les vivants ?
Oui, bien sûr. Alors, il y a le personnage d'Aïcha, qui est la petite fille qui voit ce massacre, mais qui en fait est un rappel de l'enfant qu'on va suivre ensuite, et qui est Selma, un personnage féminin très fort, qui est cette toute jeune fille qu'on suit donc de la fin de l'enfance jusqu'au début de l'âge adulte, et qui va traverser cette décennie noire en protégeant sa pulsion de vie grâce à une relation au vivant très fort, au cheval et à la nature, avec cette forêt, mais on y reviendra peut-être.
Mais pour vous, comme écrivaine, romancière, qu'est-ce qui apparaît d'abord ? Est-ce que c'est le souvenir justement des événements tragiques, les larmes, la peur, l'effroi, ou est-ce que c'est plutôt des souvenirs d'enfance, la construction d'un personnage ? Qu'est-ce qui vous a d'abord tiré dans ce texte ?
Ce qui m'a d'abord tiré dans ce texte, c'est tout un monde, donc un monde fait de sensations, mais dont la peur fait aussi partie, avec des souvenirs très forts, mais pas seulement, un monde de jouissance aussi, voluptueux, de goût, etc., d'odeur. Mais je crois que ce qui a vraiment déclenché l'écriture de ce roman, c'est une question qui me tiraillait à ce moment-là, c'était à quel moment est-ce qu'on doit rompre les liens qui nous abîment, quand ce sont des liens d'enfance, des liens importants qui nous ont constitués et qui se mettent à nous abîmer, est-ce qu'on doit les rompre ou non ? Et si on ne le fait pas, est-ce qu'on ne risque pas de se perdre soi-même ? Donc c'est vraiment ça. Pour moi, tous les personnages du livre sont confrontés d'une façon ou d'une autre à cette question, qui est en fait une question qu'on s'est tous posée dans notre vie, je crois, mais dans le contexte d'une guerre civile est particulièrement plus tragique.
Et est-ce que dès le départ, le courage que demandait l'écriture, parce qu'il y a aussi un aspect très politique dans le fait d'écrire sur cette décennie-là, est-ce que ça vous est apparu tout de suite comme une difficulté ou pas du tout ?
Pas du tout. J'ai vraiment pensé après, puisque en plus, moi, mon entrée, c'était vraiment la vie ordinaire, la vie quotidienne, puisqu'on a beaucoup parlé de cette décennie noire dans la presse, en tout cas française, du point de vue justement des massacres, du point de vue des paroxysmes de violence, mais très peu de la vie des gens. Or, la vie continuait et faisait avec cette violence aussi, et c'était aussi cela que j'avais envie de raconter.
Donc on va suivre l'enfance de Selma d'abord, et puis son adolescence. Est-ce que pour vous, c'était aussi le roman d'un passage à l'âge adulte ?
Oui, bien sûr. Et d'un passage à l'âge adulte dans ce contexte-là. Comment se construire par-delà la violence ?
Et donc, c'est l'histoire d'une famille. Comme souvent en Algérie, on habite dans la même maison plusieurs générations. Et donc, il y a la grand-mère qui est le centre de la maison. La famille de Selma, son père et sa mère, au premier étage, si je me trompe pas.
Au deuxième, du coup, l'étage du dessus.
Et le sous-sol, ou plutôt le rez-de-chaussée enterré.
Ouais, l'oncle, sous les pieds de la famille.
Voilà, sous les pieds de la famille, l'oncle Hicham. C'est une famille d'un certain niveau social quand même, hein, qui habite dans un quartier plutôt aisé, qui ont
sont
francophones et qui participent quand même de ce qu'on pourrait dire d'une espèce de bonne société d'Alger. Et ça conditionne aussi dès le départ un peu le ce que va être le roman. C'est quand même vu depuis cet Alger-là.
Oui, bien sûr. Mais c'est l'Algérie aussi que je connais. Ma famille est une famille francophone. Mais ce qui me semblait important aussi de montrer, notamment à travers le personnage de Brahim, c'est le déclassement aussi que connaît cette moyenne bourgeoisie ou bourgeoisie algérienne et le fait que nul n'est épargné. Mais le personnage d'Adèle, donc qui est ce palefrenier avec lequel Selma va nouer une relation très particulière, représente aussi une autre Algérie qui me semblait très importante de faire exister dans le roman.
Oui, on va y venir. Le roman, justement, est passionnant parce que on entrevoit en tout cas énormément de facettes de la vie quotidienne de ces années-là. Mais pour poursuivre un peu autour de cette famille et donc de l'organisation spatiale du texte, dès le départ, il y a quelque chose de particulier, c'est que le père, qui serait aussi le grand-père donc de Selma, est absent. Il est mort dans un accident assez traumatique. On va pas forcément dévoiler ce qui se passe. Et puis, ce qu'on apprend immédiatement, c'est une espèce d'inimitié entre les deux frères. Donc, d'un côté, Brahim, le père de Selma, et Hicham, son frère. Et faire ça au sein d'une même famille, c'était évidemment un peu, voilà, mettre pour vous la possibilité d'explorer aussi les différents destins qui vont se jouer à ce moment-là.
Oui, d'une guerre fratricide. C'est-à-dire qu'il y a une inimitié et en même temps un amour très fort. La dernière scène entre Hicham et Brahim sans dévoiler non plus. Et de ce point de vue-là, je crois assez parlante entre l'étreinte et la bataille. Mais et le personnage d'Hicham est pour moi un personnage très important aussi parce que il me semblait important de montrer aussi, et je crois que c'est le pouvoir du roman, d'entrer dans cette guerre, non pas par l'idéologie ou par la religion, qui peut être aussi une autre forme d'idéologie ou de dogme en tout cas, mais de montrer comment des existences, des destinées ont été percutées par cette guerre et qu'elles y ont trouvé leur chemin et parfois ont mis le doigt dans la machine de la violence et se sont retrouvées à tenir des positions indéfendables, intenables, comme c'est le cas d'Hicham, mais qu'au départ, rien ne laissait présupposer ça. Et suivre aussi pas à pas, parce que donc le roman commence au tout début donc des premières émeutes d'octobre 88, c'est que les personnages... en fait, nous, on connaît toute l'histoire aujourd'hui, mais à ce moment-là, quand la violence arrive, on ne se dit jamais ça va être encore plus violent. 91 va être plus violent que 90, etc. Non, ils voient la violence arriver, se disent, bon, ça va se calmer.
Et ça, vous le montrez très bien, parce qu'il y a justement le cousin de Brahim et sa femme, donc un cousin médecin, lui aussi d'une belle bourgeoisie algérienne très établie, dans un très bel hôpital, avec beaucoup de contacts, très même liés au trafic... contrebande de médicaments et ainsi de suite.
On appelait le Travendo.
Le Travendo, voilà. Et qui essaye de traverser justement le centre-ville d'Alger et qui n'y parviennent pas. Et on voit comment finalement aussi tout ça se joue dans l'espace. C'est une transformation vraiment des modes de circulation, mais petit à petit. Au début, on n'y croit pas vraiment et puis petit à petit, ça s'installe.
Oui, c'est ça. Et moi, c'est des souvenirs que j'ai très forts de l'odeur de ciment dans les rues d'Alger, puisque les Algérois se sont mis à monter leurs murs ou alors à mettre des barreaux aux fenêtres, doubler les fenêtres, doubler les portes, blinder les portes, etc. Et donc la maison aussi d'ailleurs se transforme, la maison des Ben Saïd de cette famille. Et donc tout l'espace urbain se transforme au fur et à mesure de cette guerre. Ouais.
Et Amina Damerji, si Hicham justement va rejoindre le fils, ça commence par un éloignement. C'est parce que d'abord, il quitte Alger pour aller à Béchar. Est-ce qu'il fallait lui trouver une raison justement pour sortir de cet environnement bourgeois ?
Oh, sans doute que le service militaire était une façon aussi d'être au contact d'autres types de populations, qu'il y avait une mixité sociale en tout cas, qu'il n'y avait peut-être pas dans d'autres sphères. Mais tel que moi j'ai pensé le personnage, c'était davantage être seul face à cette tragédie, dans le désert, dans un environnement effectivement pas très facile, de se retrouver seul face à ce trauma qu'est la mort du père. Et donc là, il faut se reconstruire dans ce vide et dans un vide qui peut être marqué par la violence.
Et justement, comment est-ce que vous avez travaillé ? Est-ce que vous êtes replongé ? Parce que, évidemment, tout ne peut pas fonctionner à partir des souvenirs d'enfance.
Hein. Non,
parce qu'on suppose même que le roman n'est pas forcément autobiographique.
Non.
En tout cas, on ne le lit pas
comme
ça.
Non, du tout.
Et comment est-ce que vous avez travaillé ? Est-ce que vous êtes retourné ? Vous êtes promené ?
Je suis retournée. Oui, beaucoup lu. Il y a vraiment une phase documentaire importante qui pour moi aussi a été importante parce que ça m'a permis de me réapproprier cette histoire qui m'était parvenue par bribes ou par récits ou l'histoire des adultes. Je voyais cette guerre à travers le regard des adultes qui m'entouraient. Et donc beaucoup de témoignages, aussi radiophoniques, de presse, d'archives en fait, vraiment, d'entretiens. J'ai parlé avec énormément de personnes qui exerçaient des métiers très différents. Et je suis retournée sur les lieux donc, de ce centre équestre qui est situé dans cette forêt de Baynem et qui a été donc envahi par les terroristes et qui encore aujourd'hui, on les laisse à l'abandon, on voit encore les tags, les tirs sur les murs, etc.
Oui, on va y venir parce que le centre équestre joue un rôle clé, même géographique, hein, dans le roman et dans la vie de Selma. Mais poursuivons un peu sur cette fin des années 80, qui est le début du roman. Là, Selma, elle a une dizaine d'années quand le roman s'ouvre. Elle est trop grande. On l'appelle la girafe.
Après, elle sera plus petite. Elle va voir les autres la dépasser.
88, donc, cette montée des périls, à quel moment est-ce que dans cette famille, on va vraiment s'en rendre compte?
Je sais pas s'il y a une prise de conscience nette. Je crois que ça monte petit à petit. Les prises de conscience, d'ailleurs, sont différentes. Pour Brahim, vraiment, le choc de la violence arrive très tard. Quand, au deuxième tiers du roman, il est confronté aux islamistes. Pour Zainab, la mère de Selma, une forme de prise de conscience politique qui arrive au fur et à mesure, mais assez tôt. Et celle qui ne veut jamais prendre conscience de tout cela, c'est Mima. Qui a sans cesse peur pour
la grand-mère.
La grand-mère de Selma et la mère d'Hicham et d'Ebrahim et qui pour moi est le personnage vraiment qui essaye de ne pas choisir entre ses deux fils, entre les différentes options politiques, même si les engagements d'Hicham lui répugnent, elle veut continuer à l'aimer et elle le paiera.
Alors les engagements d'Hicham, ils nous apparaissent pas au départ en tant qu'engagement politique, mais en tout cas comme un engagement religieux. C'est-à-dire que justement, il revient à une forme de foi très pratiquante, où il prie, ce qui déclenche une espèce d'incompréhension un peu dans le reste de la famille.
Oui, puisque ils sont musulmans, les Ben Saïd, mais de façon tout à fait ordinaire. Ça fait partie de leur quotidien, c'est culturel, mais ils ne sont pas spécialement pratiquants ou en tout cas pas revendicatifs du point de vue de la foi. Et je crois que ce qui s'est passé à cette période-là en Algérie, c'est aussi un autre type de rapport religieux qui a envahi l'espace social, l'espace public, avec des manifestations d'envergure, d'autres types de vêtements aussi. Et Hicham fait partie de ces gens-là, mais c'est tout de même assez vite politique.
Et ça, ça va le devenir encore plus après les élections, bien évidemment, de 90...
91. 91, ouais. Ouais. Enfin, il y a les élections municipales, puis les élections législatives.
Ouais. Et pour vous, qu'est-ce qui vous a guidé dans le personnage de Selma, qui est vraiment le cœur du roman? Une adaptation de vos propres souvenirs à une autre vie?
Oui, alors le personnage de Selma est pour moi vraiment le personnage qui doit faire avec tout cela, c'est-à-dire l'espèce d'amour immense qu'elle a pour chacun des membres de sa famille, y compris Hicham, même si il s'éloigne un peu à peu d'elle et elle de lui, d'être confrontée à la violence dans toutes les sphères de sa vie, y compris donc dans le monde qui compte le plus pour elle, l'équitation, et d'essayer de trouver une manière lumineuse ou la plus lumineuse possible, puisque Selma, en fait, elle, la guerre arrive, mais ça reste une enfant avec des rêves d'enfants, avec des espoirs.
Mais aussi une obsession qui est justement l'équitation. Et ce fameux centre équestre dans lequel elle se rend quotidiennement pour monter. Alors, elle a déjà un niveau assez spectaculaire, puisqu'elle fait des concours. On voit qu'elle saute avec les chevaux. Enfin, une grande réussite aussi là-dedans. Et puis, elle va tomber amoureuse, on peut le dire d'un cheval, d'un étalon dont personne ne veut, qui s'appelle Shaitan. Rien de moins que le diable.
Oui. Shaitan, oui, il est renommé comme cela, puisque, en fait, c'est une sorte de bouc émissaire du centre équestre. Il cristallise cette violence. Lui-même l'a subie, la violence des hommes, et on lui reproche d'être violent. Et pour moi, ça dit quelque chose aussi de cette période où la violence arrive, nous frappe, mais on voit pas aussi tout ce qu'il y avait derrière cette violence, tout ce qui a mené à cette guerre. Et donc, Selma noue une relation avec lui. Elle va guérir le cheval, enfin, réparer ce cheval très abîmé. Mais cette relation d'amour, vraiment, avec ce cheval, va lui permettre à elle de se construire aussi dans cette guerre de façon positive.
Alors, Amina Damergis, ce centre équestre est spécial parce qu'il est dans une forêt.
Oui.
Une forêt qu'on a l'impression qu'elle est située un peu entre l'endroit où habite Selma et des quartiers bien plus populaires. Un peu comme si c'était un endroit qui réunissait un peu tout le monde.
Oui, c'est exactement ça. En fait, la forêt de Bynum, donc c'est une forêt qui existe, hein, qui est magnifique, une forêt d'eucalyptus et de pins qui sont très bons et qui domine la ville et se jette dans la mer. Et cette forêt, donc en bord de mer, donc le quartier où vit Selma, qui est plutôt un quartier aisé, et le massacre de Sidi Youssef donc a eu lieu de l'autre côté de cette forêt, en bordure aussi, mais côté terre. Et au centre, il y a donc ce centre équestre qui est le lieu où se rejoignent Adèle le palefrenier et Selma, donc notre héroïne.
Où se rejoignent beaucoup de destins, parce qu'il y a, bon, il y a le cheval, on reviendra sur cet étalon Shaitan. Mais aussi, on a l'impression que c'est un lieu qui est en dehors de la ville, comme si on pouvait échapper, justement, jusqu'à un certain point, à tout ce qui se joue autour, en traversant cette forêt pour aller dans ce centre équestre.
Oui, ben c'était un lieu, le lieu où les Algérois allaient pour passer leur week-end, la forêt de Bynum. Mon premier souvenir, vraiment le moment où enfant je me rends compte qu'il y a une guerre, c'est quand ma mère me dit ben ce week-end nous ne pourrons pas aller à Bynum puisque la forêt était envahie par des terroristes. Et je me souviens que des gens continuaient, disaient non mais moi je vais continuer à faire mon jogging. Et donc il y a ce rapport en fait à la forêt puisque c'est un endroit à la fois très effrayant mais aussi un endroit plein de vie avec des oiseaux, des parcours de santé, etc. Et un endroit où on peut se cacher. Et donc pendant très longtemps la forêt Bynum a été un lieu où à la fois le danger grandissait et en même temps qui restait un lieu de liberté.
Mais ce qui est très beau, Amina Damerji, dans Bientôt les vivants, c'est justement que Selma, on a l'impression qu'elle se construit justement en dehors de la ville, dans cet endroit qui appartient à personne. C'est à la fois un refuge, mais c'est le lieu où elle va apprendre énormément de choses. Bon, bien sûr, sa relation avec l'animal, mais aussi l'amour, aussi voilà, d'autres formes de rapports humains. Mais en dehors justement des enjeux politiques et de sa famille.
Oui, c'est vrai que même l'espace du centre équestre, le fait d'être plongé dans une nature où finalement ses parents la déposent le matin et reviennent la chercher le soir, c'est une grande liberté pour elle puisque elle peut rencontrer des gens qu'elle ne rencontre pas habituellement, elle peut passer ses journées à faire ce qu'elle veut, elle ne va pas à l'école à ce moment-là. Et donc oui, c'est un espace aussi où elle peut aller se balader à cheval, galoper, donc même physiquement, c'est un espace de grande liberté et d'expérimentation du corps parce que Selma est une adolescente, donc c'est un âge où on se construit aussi physiquement et où le corps se transforme. Et donc pour Selma, c'est une façon de continuer à être libre et ne pas être empêtrée dans à la fois les modifications du corps adolescente, les contraintes de la vie sociale, les codes, les normes de la société.
Et au cœur de Bientôt les vivants, il y a ce cheval quand même. Ça, c'est une idée assez magnifique, puisque bon, c'est un cheval blessé déjà, d'abord, mais c'est un cheval extrêmement vivant, mais quand même dangereux. Donc on sent qu'il est presque symbolique, en fait, en tout cas, qu'il est impossible à circonscrire juste au fait que ce soit un cheval.
Oui, il y a toute une dimension symbolique, mais il y a aussi une dimension très charnelle, très voluptueuse, dans ce qu'est ce rapport avec l'animal, et puisque sa famille, enfin, au moment même où les mots séparent les gens de sa famille, elle a cette relation très forte avec un cheval avec lequel elle ne parle pas, ou presque pas, et où le contact est beaucoup plus physique et voluptueux. Donc il a une dimension symbolique, mais aussi il incarne quelque chose de très concret.
Amina Damerji, est-ce que c'est justement parce que les humains ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, pour ainsi dire, que le rapport avec l'animal prend autant d'importance?
Peut-être. Mais c'est aussi que la violence frappe toutes les sphères du vivant et que ce cheval a aussi été abîmé. Et puis on le voit au fur et à mesure du roman, la forêt aussi va être abîmée, les oiseaux vont partir. Mais oui, sans doute qu'il y a quelque chose comme un refuge, en tout cas, dans le monde animal.
Et est-ce que ce cheval, vous le connaissez? Est-ce qu'il existe ou pas du tout?
Ah, il y a un cheval modèle, oui.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Parce que c'est très technique en même temps. Hein. Non seulement l'immense vocabulaire du cheval.
Oui, mais moi j'étais cavalière.
Ah oui, d'accord, parce que là, on voit quand même bien un rapport très précis, justement, à l'équitation. Et puis au plaisir aussi que ça apporte pour le corps, le rapport avec l'animal.
Oui, et puis pour moi, mon rapport à la littérature et à l'écriture est complètement entremêlé avec l'équitation, puisque le premier geste d'écriture toute petite, c'était après avoir lu et relu la série Les Talons Noirs. Et ensuite, ce cheval avec lequel j'avais noué une relation très forte a été l'occasion d'écrire mon premier poème. Alors j'avais 11 ans, mais pour moi, il y avait quelque chose de très... dans la manière, le rapport que j'avais avec ces animaux et ma manière d'être face à la page, il y avait quelque chose de similaire. Je ne saurais pas l'expliquer autrement. Et donc, revenir à ça, c'était aussi revenir à quelque chose de fondateur, je crois.
Mais Amina Damerji, c'est quand même le cheval au milieu d'un monde qui s'effondre. C'est aussi un portrait d'un univers qui est en train de basculer complètement dans la violence, où on voit justement cet effondrement, morceau par morceau, de la société. Les espoirs, les uns après les autres, sont déçus d'un côté comme de l'autre, justement. Mmh. Et on a l'impression que bientôt les vivants se fait un peu une espèce de carte de l'injustice, où tout le monde, tous ceux qui sont là, vont être, d'une façon ou d'une autre, les victimes de ce système qui les broie.
Ah oui, je pense que personne n'a été épargné, effectivement. Mais vous disiez que voilà, tout le monde sombrait dans la violence et qu'ils étaient tous de plus en plus abîmés. Mais justement, ce cheval est blessé, mais il guérit. Selma aussi va être blessée, mais elle va aussi guérir. Alors elle ne pourra plus faire exactement ce qu'elle faisait, mais faire autre chose. Et c'était ça aussi que je voulais raconter.
Oui, c'est sûr que pour le personnage de Selma, c'est quand même, bien sûr, l'histoire d'une construction. Je dis pas le contraire, d'un échappatoire, mais il y a quelque chose de beau dans, justement, le fait de se dire qu'on va s'en aller à cheval, quoi. C'est aussi cette possibilité qu'offre le cheval, qui est cette perspective de fuite. Sauf que là, pour le coup, la fuite reste quand même extrêmement difficile. Ouais. On le voit bien, vous décrivez très bien tous ces empêchements, ces espoirs détruits. Bon, l'assassinat de Boudiaf, par exemple, on sent que le père de Selma, par exemple, est complètement détruit par cet assassinat, puisqu'il y mettait l'espoir d'une possible réconciliation. On sent que l'Algérie brûle derrière. Et lui-même, on va en faire l'expérience, alors pas d'une façon dramatique, mais néanmoins. Et c'est ça aussi qui est passionnant dans Bientôt les vivants, c'est comment est-ce qu'on rencontre, même géographiquement, à différents endroits, différentes formes de la violence.
Oui, oui, bien sûr, et qu'à tous les niveaux de la société, que ce soit la petite Aïcha de 7 ans qui voit, et là, ils ont été nombreux les enfants, qui ont aussi vu des massacres, vu leurs parents se faire assassiner. Et donc, il y a à la fois toute cette enfance brisée, en même temps ceux qui sont partis, qui ont pu partir aussi, mais qui n'en sont parfois pas moins brisés, ceux qui sont restés, ceux qui ont décidé d'avoir des tâches politiques, de s'impliquer, ceux qui ont décidé de se désengager, ceux qui, comme Maya, la cousine de Selma, qui est une autre façon de se construire.
Qui s'oublie dans la fête, mais dans l'image aussi.
Oui, et qui devient reporter de guerre. Reporter, ce qui à cette époque-là signifie d'être un peu reporter de guerre. Personne n'est épargné, quel que soit le métier, quelle que soit l'envie d'engagement ou de désengagement, ou l'âge.
Oui, mais même pas Hicham, qui est quand même celui qui s'engage, qui devient l'avocat du Front islamique du Salut, et notamment de Ali Bellage, le grand prédicateur qui a été arrêté dès le début des événements, et qui lui aussi sera arrêté à son tour, et ainsi de suite. Donc on sent qu'il y a quand même de tous les côtés des pertes et des blessures. Et le personnage qui est aussi extrêmement important et absolument magnifique, c'est Adèle. Donc, qui lui aussi fait tout ce chemin-là, mais de l'autre côté, depuis justement ceux qui n'ont pas été nantis ni bourgeois. Amina Damerji.
Oui, Adèle. Donc, je parlais du personnage d'Hicham qui s'engage, montrer que ses destinées qui peuvent épouser la cause islamiste peuvent y venir ni par idéologie ni par religion. Mais Adèle, c'est encore autre chose. Il finit par rejoindre le maquis, mais pas parce qu'il en épouse la cause, mais parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur d'être raflé par la police, parce qu'il a peur d'être accusé de traîtrise par les islamistes du village. Et donc, cette peur fait prendre des décisions terribles, mais sauf qu'une fois qu'on met le doigt dans la violence, c'est très difficile d'en sortir.
Et là aussi, est-ce que vos entretiens vous ont amené à des gens comme Adèle ?
Des gens qui ont directement pratiqué la violence, non, mais j'ai trouvé des archives, en revanche, chez des historiens qui avaient fait des entretiens avec des parcours de gens qui avaient pris le maquis. Mais sinon, des gens qui avaient épousé la cause islamiste sans acte violent, ça oui, j'en ai eu dans mes entretiens. Oui. J'en avais besoin pour comprendre ça de l'intérieur.
Et Amina Damerji, justement, est-ce qu'il y a des moments difficiles dans l'écriture ? Est-ce qu'il y a des moments de choix où vous vous dites, là, je sais pas trop quelle partie prendre, je sais pas trop comment raconter ça ? Est-ce que vous êtes retrouvé face aussi à ces questions algériennes où on doute ?
Bien sûr, oui. Vous évoquiez tout à l'heure le point de vue francophone de cette famille de la bourgeoisie ou moyenne bourgeoisie. Ça a été un questionnement au départ. Depuis quel point de vue raconter ce livre, celui que je connais vraiment intimement, ou essayer de faire une sorte d'histoire à parts égales de l'Algérie francophone, l'Algérie arabophone, ou alors l'inclure différemment. Donc ça, c'était par exemple un choix. Et puis la question de la temporalité. Commencer par le massacre, commencer par l'enfance, ou arrêter cette histoire, où est-ce qu'elle s'arrête d'ailleurs.
Mais vous parlez par exemple sans phare de la corruption,
oui.
De cette bourgeoisie, oui. Du cousin ou même du père de Salma.
Je me suis rien
Salma,
interdit par contre, écrivant.
Très, très clairement, vous dites oui, ces gens sont corrompus, enfin en tout cas ces personnages-là l'étaient à ce moment-là et c'était une façon aussi de survivre.
Oui, oui, sans doute. Qu'aurions-nous fait à la place de Brahim, qui n'arrivait plus à faire vivre sa famille, qui devait défendre son frère? Enfin, les personnages sont pris dans des pièges, en fait. Ils sont piégés par la vie. Il m'a fallu, à un moment donné, pour écrire ce livre, en tout cas, oublier qu'il allait être lu. Ça a vraiment été nécessaire.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, oublier qu'il allait être lu?
J'ai eu besoin de... pour me défaire de toutes les pesanteurs ou des regards qu'on peut intégrer des personnes qui m'entourent ou des membres de ma famille ou des gens qui ont partagé cette histoire, j'ai eu besoin pour écrire librement, vraiment d'oublier que j'allais remettre ce roman réellement à mon éditeur à un moment.
D'effacer les lecteurs et de
ouais,
dire...
Ouais, j'en ai eu besoin.
Quelle était la crainte
de...
derrière ça?
De ne pas vraiment m'approprier la destinée de mes personnages, d'éviter de dire des choses que j'avais envie de dire, comme cette corruption par exemple, ou de gommer certaines choses, certaines aspérités propres à chaque personnage. Non, je voulais vraiment que ce qui guide l'écriture soit la vie de mes personnages dans la pleine cohérence de leur développement.
Alors Mina Damerdi, pour conclure peut-être, alors vous allez peut-être me dire que je me trompe complètement, mais j'ai vu dans Bientôt les vivants, le titre... J'ai cru reconnaître un vers de Kateb Yassine,
oui.
Qui est en fait « Et bientôt, les vivants ». Est-ce que c'est ça?
Oui.
Parce qu'il n'est pas dans le livre.
Non, je ne voulais pas en faire une référence. Non, c'est vrai que c'est une référence à la guerre civile espagnole, une autre guerre qui ouvre le livre. Mais oui, oui, ce titre vient du poème de Kateb Yassine, « Poussière de juillet ».
Qui dit « Et même fusillés, les hommes s'arrachent à la terre, et même fusillés, ils tirent la terre ». Terre.
À eux comme une couverture, et bientôt les vivants n'auront plus où dormir.
Alors c'est un poème qui parle de la guerre d'indépendance.
Tout à fait, du poids des morts dans un tout autre contexte, mais ce qui m'est apparu, c'est qu'en isolant ce syntagme, bientôt les vivants ont renversé le poids noir de cette fin du poème de Kateb Yassine, enfin c'est pas la fin d'ailleurs, la fin de cette strophe, et qu'on allait vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et par ailleurs, les vivants, je ne voyais pas de meilleure manière de qualifier les personnages de ce roman, puisqu'il n'y a pas du tout que des hommes et des femmes, il y a aussi ce cheval, il y a aussi d'autres animaux, la forêt, et donc il me semblait important qu'ils apparaissent.
Mais si on lit la fin du poème de Kateb Yassine, pareil au javelot tremblant qui le transperce, nous ramenons à notre gorge la longue escorte des assassins, ça pourrait aussi
oui,
s'appliquer à cette décennie-là.
C'est vrai.
Et pourquoi pas l'avoir cité hein?
Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que quand j'ai trouvé le titre, j'avais déjà l'épigraphe du livre qui pour moi faisait sens. La scène finale, je l'avais en tête dès le début de l'écriture. Ce poème de Raphaël Alberti est un poème qui a beaucoup compté pour moi.
Et à galopard, justement.
Voilà,
partons au galop.
Oui, c'est ça. Dans un autre contexte de guerre civile. Donc, je savais que c'était par là que je voulais commencer et là que je voulais emmener mon lecteur tout à la fin. Je savais pas tout ce qui se passait entre, mais ça, je l'avais. Et peut-être aussi que je voulais garder une forme de mystère. Et puis, ça me plaît beaucoup que les lecteurs puissent deviner aussi qu'il s'agit du poème de Kateb Yassine.
Merci beaucoup Amina Damerdi de nous avoir rendu visite aujourd'hui.
Merci à vous.
Le déchirant roman Bientôt les vivants est paru aux éditions Gallimard. Cet entretien littéraire était réalisé par Laure-Hélène Planchet avec Mélodie Esman à la technique et Aurélie Marsay à la préparation. Nous nous retrouverons samedi prochain, mais d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ou podcaster l'entretien littéraire sur le site de France Culture et l'application mobile de Radio France.